France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
D'abord, rappeler que les violences faites aux enfants en milieu scolaire n'épargnent personne. Hein. Le public, le privé, tout le monde est concerné. Les violences à l'école étaient systémiques. Elles sont encore présentes aujourd'hui dans les établissements privés et publics, fermez les guillemets, ce sont les mots des deux rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire. Trois mois d'audition, plus de 300 pages, 50 propositions sur lesquelles, bien sûr, nous allons revenir. Alors pourquoi avons-nous choisi de regarder vers le privé, les établissements sous contrat dans ce téléphone sonne? Parce que c'est là, avec Bétarame, je ne vous l'apprends pas, que tout a commencé. Et bien sûr, cette école occupe une grande part du rapport de l'enquête parlementaire et parce que le privé sous contrat vient dans l'essentiel des témoignages. Dans ce rapport, les écoles privées, 96% d'entre elles sont catholiques, tiennent une place prépondérante parce que les mécaniques de violence y sont décrites comme accentuées, c'est ce qu'il y est dit, parce que le mode de fonctionnement de ces écoles, la présence souvent d'internats dans leur structure, en fait des lieux qui sont parfois à part. Les auteurs parlent d'une loi du silence particulièrement prégnante dans les établissements privés, d'une carence absolue de l'État en matière de contrôle. Les auteurs écrivent noir sur blanc que le problème, c'est pas le silence des enfants, c'est l'omerta des adultes, le silence complaisant, disent-ils, prudent ou résigné des adultes. Alors, les propositions, il y en a 50. Il y a par exemple mieux contrôler ces établissements au moins tous les 5 ans. À titre d'exemple, il y a eu 12 contrôles dans toutes les écoles entre 2017 et 2023. Mieux contrôler aussi tous les ans ou tous les 3 ans les internats. Contrôler aussi l'honorabilité du personnel et des bénévoles, c'est ce qui est inscrit. L'enquête parlementaire propose de mettre ces établissements sous le giron de la Direction générale de l'enseignement scolaire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le rapport veut aussi qu'on reconnaisse la défaillance de l'État et donc qu'un fonds d'indemnisation soit créé. Ce qu'on lit, c'est qu'il faut remettre tout simplement beaucoup de choses sur la table. Est-ce qu'on parle de changement de culture? Est-ce que le changement de culture n'est pas déjà là, mais a besoin simplement d'être poussé peut-être un peu plus loin? Eh bien, parlons-en, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Michel, bonsoir, vous êtes le premier et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Content de vous entendre et tout mon soutien au service public.
J'avais
juste, en écoutant monsieur le député Vanier ce matin, l'impression que finalement les seuls coupables c'était les services publics. La faute aux gendarmes, la faute à la justice, la faute à l'éducation nationale. Bon, j'entends pas tellement les congrégations ou les associations qui possèdent ces écoles responsables de ça. Ma question c'est, est-ce qu'on peut pas envisager, comme il existe par exemple dans les entreprises privées, des systèmes d'audit, c'est-à-dire que le contrôle n'est pas à la charge de l'État, mais le contrôle c'est l'entreprise, donc dans ce cas-là l'école, qui doit fournir soi-même une certification. Je rappelle simplement que par exemple dans l'industrie agroalimentaire, il y a des contrôles inopinés qui ont lieu plusieurs fois par an, et si ces contrôles sont négatifs, l'entreprise est sanctionnée.
Mais si c'est inopiné, Michel, il faut pas que ce soit à l'intérieur de l'établissement qui fasse lui-même le contrôle, on est d'accord avec ça?
Non, on est bien d'accord que dans ce cas-là, c'est une entreprise de certification éventuellement qui donne la certification à l'établissement, quitte à faire des contrôles inopinés. Les audits, on sait comment ça se passe des fois. On prévient 2 mois à l'avance qu'il va y avoir un contrôle, etc. Dans l'industrie agroalimentaire, je le répète, les contrôles, les auditeurs se pointent le matin, voire la nuit éventuellement, et puis font leur contrôle, quoi. Moi, ça me semble la chose la plus normale, surtout que là, il ne s'agit pas d'agroalimentaire, il s'agit surtout en effet d'enfants et de bien-être des enfants, quoi. Enfin, la sécurité des enfants, quoi.
Merci beaucoup, Michel, parce que justement, les contrôles, les inspections, il y en a beaucoup dans le rapport parlementaire. On y viendra, évidemment, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Anne Lobignat qui est avec nous. Bonsoir. Hélène Lobignat, pardonnez-moi. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Appel, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Il y a Véronique Cotterelle qui est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je voulais être sûre que vous étiez là parce que vous êtes à distance. Vous êtes enseignante et présidente du SNEC CFTC, Syndicat National de l'Enseignement Chrétien. Et puis on aura un inspecteur tout à l'heure au téléphone et c'est important. Là-dessus, Hélène Lobignat d'abord, notre auditeur, il dit il faut qu'il y ait des contrôles inopinés de toute façon dans les établissements et au fond, quels qu'ils soient. Là, quand, dans le rapport, vous lisez plus de contrôles. Est-ce que vous vous dites oui, plus de contrôle et de plus en plus d'ailleurs, il faut les ouvrir ces portes-là en fait, c'est peut-être ça la leçon.
Oui, bonsoir. Alors effectivement, plus de contrôle, nous n'y sommes pas du tout opposés. Alors moi, je représente l'Association des familles de l'enseignement catholique, mais c'est vrai que nous n'avons rien à cacher, nous sommes dans la transparence, et je pense que pour être transparent, rien de mieux que des contrôles, à condition qu'ils soient faits en toute bienveillance, et avec certains cadres quand même qui puissent être respectés.
Mais il n'y a pas de raison, en fait, les contrôles sont les mêmes pour les écoles privées comme pour les écoles publiques, donc il n'y a pas de raison que le cadre soit différent, on est d'accord avec ça ou pas ?
Tout à fait, il faut que le cadre soit le même pour tous les deux.
Est-ce que, avec votre casquette syndicaliste, Véronique Cotterelle, et encore une fois, on aura un inspecteur tout à l'heure au téléphone, à ça, est-ce qu'on répond, ben oui, mais avec quels moyens ? Ou est-ce qu'on répond, est-ce qu'il faut changer les modalités de contrôle ? Qu'est-ce qu'on dit ?
Eh bien nous, le SNEC-CFTC, nous sommes entièrement d'accord avec ces contrôles. Hein. Nous avions même, lors de l'audition parlementaire, préconisé d'entendre les élus lorsqu'il y a un conseil social et économique, parce que là aussi, il y a des PV, il y a des choses qui ressortent lors de ces conseils social et économique. Et ça, c'était une autre piste aussi, parce que pendant des contrôles, il arrive qu'on peut sélectionner les gens qui vont peut-être être entendu, auditionné par les inspecteurs.
C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris ce que vous êtes en train de nous expliquer. Sélectionner les gens, ça veut dire quoi ?
Parce que vous, lors des contrôles, lorsque c'est un contrôle dans l'établissement, on peut être amené à être entendu par l'inspecteur. Mais si les personnes sont désignées d'office, alors que elles peuvent être désignées parce qu'elles sont choisies, eh bien, peut-être que tout ne ressortira pas.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière et les modalités en fait des contrôles. Est-ce qu'on peut modifier les modalités des contrôles ou pas, Hélène Lobinien?
Ben alors les contrôles doivent être pluridisciplinaires, ils doivent être faits de manière inopinée, et on peut tout fait, pour être en complément avec ce que vient de dire Madame Cotterelle, effectivement arriver avec un tirage au sort des personnels qui seront interrogés. Enfin voilà, si nous sommes dans la transparence, il n'y a pas de sujet en fait. Il faut qu'il y ait tous les acteurs qui puissent être interrogés, mais à tous les niveaux.
Est-ce que vous avez le sentiment, et vous dans la peau de présidente d'association de parents, est-ce que vous avez le sentiment que, je ne sais pas s'il y a eu un changement de culture dans le privé, s'il a commencé il y a longtemps, s'il doit toujours faire son chemin, mais on va avoir une question dans ce sens, j'aimerais d'abord vous en parler un peu, Hélène Lobinien, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours cette image qui colle au basque en fait, des établissements privés, et qu'au fond, cette histoire de Betarame est tout ce qui suit derrière, et l'immensité des témoignages qui viennent derrière et qui viennent d'ailleurs, disent « Nous avons un aggiornamento à faire et nous ne l'avons pas fait. »
Alors écoutez, je pense
pas
que...
fini.
Alors, je pense que ça ne sera jamais fini. C'est à nous de nous emparer et de faire une vraie prise de conscience. Je pense que ce rapport, il faut saluer quand même le travail qui a été fait lors de ce rapport et de cette commission d'enquête, les différentes auditions qui ont eu lieu. Pour nous, au niveau de l'appel, ça a été un électrochoc. Mais c'est quelque chose aujourd'hui dont on doit tirer les bénéfices. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on met en place ? Comment on le met en place ? Nous avons, nous, dès le mois de février, commencé à travailler avec la Civise, avec le collectif des victimes, avec donc les différentes personnes. On les fait rencontrer à nos différents cadres et nous allons continuer à partir de septembre, en accentuant, en travaillant également avec les défenseurs des droits.
Non, pardon, finissez. Non, je faisais signe parce qu'il va y avoir un autre auditeur, mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas net, parce que pour moi, ça fait extrêmement bizarre.
Non, mais voilà.
Allez, donc, voici Thierry qui est avec nous. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Ah, on vous écoute.
Oui, bien, je travaille depuis une trentaine d'années dans l'enseignement privé, et c'est vrai qu'il y a eu, dans des établissements ou bien d'autres, des drames pour lesquels on doit absolument savoir ce qui s'est passé, punir les auteurs et prendre soin des victimes. Mais à côté de ça, il y a une multitude de personnes, d'enseignants, de salariés qui, eux, viennent travailler dans les établissements pour les élèves, au service des élèves, et qui ont la compétence qu'il faut pour s'occuper d'eux, et c'est dommage qu'on mette un petit peu tout le monde dans le même sac.
Et vous avez le sentiment qu'on met tout le monde dans le même sac, vous Thierry, en fait ?
Oui, c'est exactement ça, parce que actuellement, lorsqu'on lit les médias, lorsqu'on ouvre les médias, lorsqu'on les écoute, on parle beaucoup des établissements privés catholiques. Or, dans les établissements privés catholiques, il n'y a pas que des criminels. Au contraire, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui sont investies.
Non, alors ça, pas que des criminels, c'est sûr. Après, dans tout ce qu'on a lu, par exemple, et notamment sur un certain type d'enseignement, peut-être plus exigeant, peut-être parfois plus dur, est-ce que vous avez l'impression, Thierry, que vous vous êtes reconnu ? Ou là encore, pas du tout, pas une seconde.
Ça, peut-être était vrai à une époque, mais aujourd'hui les établissements scolaires privés adaptent leurs enseignements aux élèves et cherchent surtout à les faire progresser chacun en fonction de qui ils sont et de leurs capacités. C'est ce que je vois.
Il faut, merci Thierry pour votre intervention. Véronique Cotterel, il y en a combien, 7200 ou 7500, du coup j'ai un doute sur le chiffre que j'ai sous les yeux, des établissements privés, donc évidemment il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Hélène Lobinia juste avant, est-ce que vous avez le sentiment cependant qu'il y a un changement de culture à opérer, un changement de culture qui a déjà commencé, une image en tout cas à se décoller des chaussures lorsqu'on est établissement privé ou pas?
Alors oui, moi je rejoins totalement Madame Lobinia à ce niveau-là. Il faut vraiment changer notre image. Mmh. Et je pense, quand je veux rebondir aussi sur le collègue qui a parlé juste avant, effectivement, tous les articles que l'on voit, c'est l'école privée d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et heureusement, nous avons des collègues, que ce soit les enseignants, les salariés des établissements, qui effectuent un travail remarquable chaque jour. Donc, et là, ne pas stigmatiser, hein, ça on l'avait rappelé aussi, stigmatiser l'enseignement privé, comme vous l'avez rappelé au début, et ça existe dans le public, ça existe dans le privé. Partout où il y a malheureusement des enfants, il y a des prédateurs.
Avec là, pardon, Véronique Cotterel.
Oui. Et là, c'est là où il faut être formé, et c'est le gros souci de formation aussi de nos collègues, que ce soit enseignants ou salariés des droits privés.
C'est inscrit dans le rapport d'ailleurs, Hélène Lobinia, et je reviens sur ce que notre auditeur disait, il y a cette idée que plus de fermeté, plus d'autorité, oui ça existe, et c'est même comme ça qu'on se vend quand on est un établissement privé parfois, parce que ça fait partie aussi des demandes, elle vient de là aussi cette réputation des établissements privés, non, vous croyez pas?
Alors ça peut exister ça et là, mais ça n'est pas une généralité. Nous avons bon nombre de justement d'établissements qui aujourd'hui, et les parents font ce libre choix en étant les premiers éducateurs quand même, de choisir l'établissement qui correspond le mieux à leurs enfants. N'oublions pas qu'ils confient la chair de leur chair à l'enseignement privé et ils vont trouver le meilleur projet pédagogique et faire confiance en fait à l'équipe éducative qui est en place pour avoir le meilleur pour leurs enfants, pour les faire grandir et pouvoir justement en faire de vrais adultes.
Donc, alors ça c'est ce que veulent effectivement tous les parents, et puis ensuite on se retrouve effectivement confronté quand même parfois à certains établissements. Vous aviez été auditionné, Véronique Cotterel, lors de cette commission d'enquête. Qu'est-ce que vous avez dit notamment et que vous retrouvez aujourd'hui dans ce rapport et dont vous avez le sentiment qu'il peut changer, y compris pour, j'allais dire, vos établissements? Vous parliez notamment, et c'est ce que j'ai sous les yeux en tout cas, d'un vademécum qui regrouperait toutes les informations relatives aux droits, ceux des enfants, ceux des lanceurs d'alerte, ceux de tout le monde. Là-dessus, il y a beaucoup de propositions et c'est peut-être là qu'il faut progresser. Savoir à qui on parle, où on parle, à quelle vitesse ça va.
Oui, tout à fait. Il y avait notamment, on avait soulevé le problème de la formation, hein, et là on le retrouve bien puisque les enseignants vont être formés et les personnels éducatifs également. Et le deuxième point, c'était l'information. Il faut savoir que les enseignants ne reçoivent aucune consigne, nous n'avons aucun protocole. Tous les documents sont mis sur Eduscol. Si l'enseignant ne va pas sur ce site, je veux dire, on ne reçoit pas un message de la part de notre employeur qui est l'État, hein, nous disant, voilà, aujourd'hui, il y a, par exemple, en dernière date, c'est le décret sur les lanceurs d'alerte. Mm-hmm. C'est vraiment très important. Eh bien, nous n'avons pas reçu en tant qu'enseignant la moindre indication concernant le lanceur d'alerte.
Mais est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas jusque-là où aller, à qui vous adresser et quoi faire en cas de signalement? C'est ça que ça veut dire, Véronique
oui,
Cotterel,
c'est ce que nous avions, c'est ce que nous avions souligné lors de l'audition, c'est que par exemple l'article 40, on a bon nombre de collègues qui ne connaissent pas forcément ou la procédure à suivre.
L'article 40, il faut nous donner une note en bas de page. Théoriquement, n'importe qui peut aller devant le procureur et demander à activer cet article-là qui permettra de mettre en place une procédure immédiatement. Est-ce que vous avez le droit, par exemple, en tant que prof? Est-ce que vous le savez ou pas? Est-ce qu'il faut le dire à votre chef d'établissement? Comment ça se passe?
Alors moi, je le sais parce que je suis en tant que présidente du SNEC et d'autres collègues le savent, mais il faut savoir que tout le monde ne sait pas. Alors nul n'est pas censé ignorer la loi, hein, ça je l'entends, mais en l'occurrence, tout le monde ne connaît pas cet article.
Après, vous savez, on va retourner au standard dans un instant, mais à chaque fois, pardonnez-moi Véronique Cotterelle, mais je suis très étonnée de on ne sait pas faire, on ne savait pas dire, et à la fin, c'est les enfants qui trinquent. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un vademécum, comme vous dites, est-ce qu'il faut vraiment une formation, je n'en doute pas une seconde, mais qu'on vous pointe le chemin pour faire un signalement, pour aller vers un procureur de la République, vers la police ou autre?
Alors après, il faut savoir que ça, nous l'avons soulevé aussi lors de la mission, de la commission parlementaire, il y a un frein, puisque ça passe par la voie hiérarchique. Aussi, lorsqu'on en réfère au chef d'établissement, normalement par... Et alors oui, l'article 40, nous ne sommes pas obligés, mais il y a aussi la peur de ce qui peut arriver, aussi bien du côté de ce qui pourrait nous... Oui.
Ce qui pourrait vous arriver à vous, si vous dénoncez Véronique Cotterelle, c'est ça que vous dites,
oui,
en fait.
Oui. Tout à fait.
Hélène Le Bignat, il y a dans le rapport beaucoup de choses sur le silence, l'omerta, pas celui des enfants, mais le nôtre, celui des adultes. Et au fond, en écoutant ce que dit Véronique Cotterelle, j'ai l'impression de lire ce que j'étais dans le rapport. Ça dit ça aussi. Et c'est ça qu'il faut être capable de briser. On ne peut pas, dans un établissement, avoir peur d'aller voir son proviseur, d'aller voir le directeur ou d'aller voir quelqu'un d'autre.
En fait, chaque parent, chaque famille, chaque adulte, mais chaque enfant a aujourd'hui la responsabilité de pouvoir être écouté. C'est pour ça que nous avons lancé cette campagne d'affichage avec « Parle, on te croit, parle, on te protège » et en martelant ce numéro qui est le 119, qui maintenant en plus est ouvert jour et nuit, où chacun peut signaler les faits quels qu'ils soient. Nous n'avons pas à juger des faits, mais il faut pouvoir les signaler. C'est notre devoir de citoyen. Donc il faut avoir cette vigilance, cette écoute et cette formation aux familles pour pouvoir les apprendre à écouter et changer effectivement ces manières de faire.
Voici Andrew qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, j'entends le sujet et j'avais une réflexion, c'était oui, que s'il y a des inspections des établissements, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui est mis en place pour que les élèves puissent être directement écoutés par des personnes sans intervention des gens de l'établissement. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment en place des choses pour entendre des élèves comme ça. Et bon, j'ai la réflexion parce que j'ai travaillé plus de 20 ans dans un établissement public et aussi je suis britannique d'origine et je vois qu'en Grande-Bretagne par exemple, quand il y a une inspection dans un établissement, il y a une partie de l'équipe qui vient, ils vont prendre quelques jours pour interroger les élèves et écouter ce que les élèves ont à dire sans qu'il y ait quelque chose, quelqu'un de l'établissement qui est là.
J'entends bien, on a repéré un tout petit peu, Andrew, que vous aviez un petit accent britannique et en effet, c'est intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté de la Manche, donc c'est-à-dire pas loin. Je voudrais qu'on salue Philippe Janvier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir. Vous
êtes secrétaire général du Syndicat national des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux. Et vous avez entendu la question d'Andrew. Moi, je voudrais savoir, en fait, parce que j'en sais rien, quand on est inspecteur et qu'on vient faire une inspection, est-ce qu'on peut systématiquement voir les élèves sans la présence d'adultes, donc ni les professeurs, ni un proviseur éventuel? Est-ce que c'est une possibilité? Et sinon, est-ce que vous la réclameriez, Philippe Janvier?
Alors, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'inspection, parce que peut-être qu'on confond inspection, évaluation de professeurs, évaluation d'établissement et contrôle d'un établissement comme c'est le cas dans le privé. Donc je pense que ce qui vous intéresse aujourd'hui, le sujet, c'est le contrôle des établissements privés sous contrat.
Oui,
la question du contrôle.
Ce qui m'intéresse, c'est le contrôle, mais quand même, moi je trouve ça quand même intéressant, parce que quand vous rentrez dans la classe, quand vous rentrez dans la classe, si c'est pour évaluer le cours, de toute façon, on est d'accord, là vous ne pourrez rien voir et vous ne pourrez rien évaluer, on est d'accord avec ça, Philippe Janvier.
Mais de quoi parle-t-on dans rien voir? Vous parlez des violences scolaires.
Oui, par exemple, vous n'aurez aucun témoignage à ce moment-là, rien ne viendra à vos oreilles, évidemment.
Non, mais
c'est pas un reproche.
Bien évidemment, non, mais je comprends. Mais bien évidemment, sinon, on n'aurait pas eu toute cette libération de la parole dernièrement. Mais en revanche, bon, mais les élèves, mais c'est un autre sujet. Les élèves parfois viennent spontanément voir l'inspecteur pour lui dire des choses au fond de la classe à la fin de l'heure. Ça serait bien que vous veniez plus souvent, ou alors on adore notre professeur, il est génial, soyez sympa avec lui. Il y a un peu de tout. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le contrôle du privé et avoir accès à une, on va dire, à une remontée, un signalement finalement. Et effectivement, contrairement à ce que pense le Andrew, quand il y a un contrôle d'un établissement sur privé, ben c'est sur plusieurs jours, et ensuite des personnels sont auditionnés et également des élèves. C'est déjà le cas depuis quelques années, depuis 2020, avec les évaluations d'établissement. Bon, c'est un autre cadre, mais dans le cadre d'une évaluation d'établissement, les inspecteurs passent 2 ou 3 jours sur place et auditionnent des personnels, mais aussi auditionnent des élèves dans divers cadres, les représentants de diverses commissions ou les délégués des élèves des classes de 3e parce que on va aborder la question de l'orientation, voilà. Mais là, sur la parole, vraiment, effectivement, il faut qu'il y ait des espaces bien sécurisés, mais il serait illusoire de croire que passer 3 jours ou même 8 jours dans un établissement suffirait à libérer la parole des élèves. Il faut quelque chose de plus large.
Eh ben, c'était ça le sens de ma question. En fait, on dit qu'on va étendre les contrôles, qu'on va les multiplier. On parle des établissements privés, mais on parle aussi des internats. Tous les ans pour ce qui est des plus petits, tous les 3 ans pour ce qui est des un peu plus grands. Est-ce que vous dites oui, au moins, ça va aider. Ça permettra d'éviter des choses telles qu'on les a entendues dans les témoignages récents, ou est-ce que vous dites ça suffira jamais, ou en tout cas, c'est pas la bonne porte?
Ouais, de toute façon, tout contribue à éviter ce genre de drame et éventuellement de scandale là, qui remonte tous les jours finalement, avec toutes les plaintes qui sont déposées et qui sont plus indigentes et indignantes les unes que les autres finalement. Mais ça ne saurait suffire. Donc il faut le faire. La régularité de tous les 5 ans est intéressante, mais ça ne saurait suffire. Pour nous, il manque 2 choses. Que j'ai eu l'occasion de dire à vos collègues de France Info tout à l'heure. Il manque un triptyque prévention, signalement, traitement. Responsabilisation dans un premier temps, c'est-à-dire que tous les acteurs soient finalement responsables de la remontée des faits dès qu'ils parviennent à leurs oreilles. Actuellement, on n'a pas de cadre qui définisse qui est vraiment responsable de quoi dès lors qu'il est informé de quelque chose, y compris de façon informelle. Ensuite, il faut qu'il y ait une sécurisation de la remontée des signalements.
Attendez, pardon, je vous interromps une seconde, Philippe Janvier. Si vous me dites qu'il y a un problème de remontée, ça veut dire que quand vous avez une information, quand vous avez un doute, voilà, une constatation...
On le constate avec l'affaire Bétarame. Alors, qui a fait remonter?
Alors là, pour le coup,
ce sont les victimes 30 ans après.
Oui, alors là, pour le coup, effectivement, là, on est dans un cas où on est sur des violences qui ont eu lieu il y a 30 ans. Mais si on se parle maintenant, si on se parle là, dans un établissement, Philippe Janvier, dites-moi que vous savez où remonter une information si vous avez un doute sur un enfant.
On sait, nous, les inspecteurs, notre cadre, il est clair. Dès qu'on a une information d'un élève, d'un professeur, d'un chef d'établissement, on fait remonter au chef d'établissement. Et si les faits sont suffisamment graves, on appelle directement le cabinet du recteur. Voilà, qui ensuite nous donne consigne quant à la conduite à tenir. Non, mais moi, je pense à tous les personnels. Je pense aux élèves. Comment est-ce que leur remontée de signalement est-elle sécurisée actuellement? C'est une vraie question. Je pense qu'il faut, comme pour des programmes comme lutte contre le harcèlement phare ou lutte contre les radicalisations pharos, il faut qu'il y ait une sécurisation de la remontée de la parole des signalements, parce qu'il faut que cette parole elle se libère. Ce que l'on souhaite, c'est pas que la parole intervienne 2 ou 3 ans après. Là, on parle de 30 ans aujourd'hui, mais même 2 ou 3 ans, c'est trop tard. Il faut que la parole soit libérée immédiatement. Et ensuite, il faut qu'il y ait un traitement et que chaque personne qui a fait passer un niveau supérieur soit informé en retour de ce que le niveau supérieur a effectué. Parce qu'on a vu aussi dans ce cas-là et dans d'autres qu'il y avait des gens qui ont fait plusieurs fois des remontées, mais ils n'ont jamais été informés du traitement. Donc on ne sait pas si le circuit des remontées se poursuit ou si à un moment donné les choses se perdent, comme on perd les scellés, vous voyez. Et ça, notre point de vue, c'est important. Mais pour nous, le plus important, c'est que si on imagine... un contrôle tous les 5 ans va faire qu'il n'y aura plus aucune violence scolaire. Pour nous, de notre point de vue, c'est pas une garantie suffisante. Il faut que nous soyons davantage sur le terrain, parce que notre présence sur le terrain nous permet, parce que c'est aussi le fond de notre métier, nous permet, on est en vigilance permanente, ça nous permet de repérer des signaux faibles, et nous pouvons croiser entre plusieurs collègues qui sont passés dans le même établissement à diverses raisons le même mois, croiser ces signaux faibles pour voir si on n'a pas un faisceau de présomption, auquel cas on peut alerter le cabinet du recteur, et alors, ensuite une machine se met en route pour faire un contrôle inopiné.
De garantie, vous n'aurez jamais, Philippe Janvier, évidemment, mais en revanche, j'entends ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça, d'avoir autant d'inspections aussi régulières et partout?
Alors, il ne s'agit pas de faire des inspections partout, tout le temps. Il s'agit plutôt d'aller voir de manière inopinée là où on a un faisceau de présomption ou des signaux faibles. Mmh. Parce qu'en réalité, les signaux faibles sont des signaux tout court. Mmh. Il faut aller vérifier. Ça peut être quelque chose d'anodin ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus large. On ne le sait pas. Donc, il faut vérifier. Mais nous, le cadre de notre travail, le cadre ordinaire, nous place dans les établissements. On y passe pour des évaluations de professeurs, pour des évaluations d'établissements, pour des temps d'accompagnement et d'appui au pilotage pédagogique du chef d'établissement. Et ces temps-là, ces dernières années, ils se sont réduits pour d'autres missions. Voilà, ces missions, elles ont aussi un intérêt à exister.
Je comprends, mais ça veut dire que dans un établissement, pardon, je vais le caricaturer un peu, Philippe Janvier, vous arrivez à 10h, vous repartez à 15h, vous avez fait des choses avant, des choses après. C'est ça que ça veut dire, en fait, donc effectivement, on n'a pas le temps de prendre pied, on va dire, à l'intérieur, c'est ça que vous dites?
Alors, parce qu'à cette occasion-là, on ne fait pas un contrôle approfondi, qui nécessite 3, 4, 5 jours. Mais en réalité, on prend quelques infos. Un collègue qui passe dans l'établissement qui a une alerte d'élèves. Un autre collègue qui passe la même semaine pour une réunion d'équipe qui a une autre alerte. Tous les mois, nous nous réunissons en collège d'inspecteurs, nous partageons ces informations-là. Et finalement, c'est là où nous pouvons dire, attention, il y a quelque chose dans cet établissement-là. Parce qu'en réalité, les établissements reçoivent... un inspecteur ne visite pas un établissement tous les jours, mais très régulièrement, un établissement reçoit la visite d'un inspecteur. Parce que dans une académie, vous avez entre 20 et 100 inspecteurs d'académie qui y vont pour voir leurs équipes, pour voir le chef d'établissement, pour piloter des examens, etc. etc. Et en fait, de notre point de vue, il faut que le ministère pense à bien redéfinir la volumétrie de toutes les missions pour que on ne mette pas tous nos œufs dans le contrôle tous les 5 ans, mais qu'on puisse aussi avoir une détection de signaux faibles.
Merci beaucoup, Philippe Janvier, c'était très clair. Merci pour ces informations. Ce que j'entends, Hélène Lobignat, il a raison, notre ami inspecteur, une fois tous les 5 ans, il peut se passer 1000 choses au milieu en 5 ans. Après, tout ça est une question d'organisation, mais ce que ça dit en creux, et c'est aussi ce que dit le rapport, au fond, c'est il faut que ces établissements soient plus sur la place publique. C'est ça que ça dit. Il peut rien se passer à l'intérieur qu'on ne sache pas, ils ne peuvent pas vivre leur vie de manière extrêmement indépendante comme c'est le cas en ce moment des établissements privés. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment? Est-ce que vous dites oui, ça c'est peut-être ce qu'il faut corriger? C'est peut-être là notre mea culpa. Nous avons cru un moment que notre liberté, notre autonomie faisait qu'on n'avait pas de compte à rendre en fait.
Alors on a bien entendu des comptes à rendre, puisque, je le rappelle, nous sommes l'enseignement catholique est sous contrat d'État. Donc il y a des obligations vers les programmes, envers les personnels, différentes choses.
Mais voilà. Avec très souvent une autonomie qui se double aussi d'un manque de contrôle de l'État, ça a été souligné, mais on le sait parce que les inspections sont moins régulières, etc. Donc il y avait aussi ce sentiment de pouvoir agir en autarcie ou pas?
Alors en autarcie peut-être pas, avec une liberté pédagogique certainement, et c'est celle qui est laissée aux enseignants aujourd'hui. Liberté de choix pour les parents également. Néanmoins, il ne faut pas que ça occulte la transparence. La transparence de nos établissements aujourd'hui doit être un gage de ce qui peut être fait demain et qui fera que nos établissements seront la vitrine de tout l'enseignement catholique. Écoutez, formez, détecter les signaux faibles, je crois que monsieur vient de le dire à l'instant, tout signal faible doit pouvoir être détecté. Mais pour ça, il faut que chacun puisse être formé, qu'il puisse écouter la parole des enfants et essayer de se dire, bah oui, là, il a pas trop mangé, il a pas trop parlé, ou trop parlé. Voilà, toutes ces petites choses et d'où cette nécessité de formation que nous, nous entreprenons de faire auprès de toutes les familles pour essayer, ça ne s'est jamais fait. Hein. Maintenant, il y a un module de formation qui va être obligatoire à partir de septembre où nous allons travailler avec le collectif des victimes parce que il n'y a personne mieux qu'eux qui savent effectivement ce que nous devons mettre en place. Donc c'est important de pouvoir travailler avec eux. La CIVI sera à nos côtés, les défenseurs des droits aussi. Je pense que c'est une action commune, c'est un devoir commun pour pouvoir protéger l'ensemble des enfants.
Ça veut dire qu'il fallait, alors j'y mets beaucoup de guillemets dans ce que je dis, hein, mais il fallait un Bétarame pour que tout ça se mette en place, par exemple, vous qui êtes représentante de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. On se dit en vous entendant, il fallait entendre ça. C'est un peu triste.
C'est un peu triste, mais il faut voir le côté positif, il faut pouvoir effectivement aujourd'hui avancer, il faut pouvoir protéger nos jeunes, il faut pouvoir les croire, il faut pouvoir mettre en place des actions concrètes que chaque parent puisse de dire « Oui, aujourd'hui je viens dans l'enseignement catholique parce que je crois en l'enseignement catholique, je crois en ses valeurs, je crois à ce que l'on
porte. » Et je n'ai pas peur de ce qui pourra se passer pour mon fils ou ma fille à l'intérieur de ces murs-là. Voici Isabelle qui est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On vous écoute Isabelle.
Alors voilà, je suis née en 1972 et j'ai toujours fait ma scolarité dans des établissements privés, primaire, collège et lycée. Et donc en primaire, c'était une communauté de frères, qui était dans un petit village. Et voilà, tous les élèves se connaissaient. Et en fait, ben, le directeur, lui-même frère, tétanisait les élèves de CM2. Et on savait qu'il était très sévère, qu'il y avait, mais il s'est jamais rien dit parce qu'il y avait une certaine omerta. Au collège, c'était une directrice et là aussi, on avait l'impression qu'elle a humilié des élèves sur le perron. Mais là aussi, il y avait une omerta, personne disait rien. Les professeurs, je pense qu'ils étaient au courant, mais ouais, ça passait. Et puis donc au lycée, non, le lycée privé, ça s'est très bien passé. Alors quand il me parle de contrôle, moi ça me fait rire parce que quand il compare les contrôles dans les établissements d'alimentation, tout ça, comme je disais, on ouvre le frigo, on voit que c'est moisi, bon bah voilà.
C'était notre premier auditeur, oui. Ouais.
Mais là, les contrôles, mais quel contrôle? Quel contrôle et puis en plus de ça, nous, nos parents, à l'époque, ils nous mettaient dans ces établissements en disant « Ouais, ce sont des frères et tout ça, ça va bien se passer. » Moi, j'ai eu des cours particuliers par un frère qui était extraordinaire et avec lequel j'étais toute seule dans la pièce, il ne s'est jamais rien passé. Mais oui, avec le frère directeur, oui, il y a des élèves qui en avaient très très peur. Mmh. Et voilà, alors aujourd'hui, je pense qu'il faut éduquer les parents et puis les élèves pour qu'ils aient le courage de parler à leurs parents. Et les contrôles, ouais, moi ça me fait rire. Mmh. Et après, quand tout le monde s'offuse, que Monsieur Bayrou dit ouais, j'étais pas au courant, mais je pense que ça peut être vrai, ça peut être vrai. Et c'est très bien, l'histoire Bétarame, ça va délier les plein de langues, comme dans le milieu de l'Église, quoi. Mmh.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Isabelle. On, avant d'écouter Isabelle et en l'écoutant, Véronique Cotterel, on s'interrogeait sur l'avant-après, au fond, et ce qui avait changé à l'intérieur des établissements, et notamment des établissements privés, notamment pour se dire il faut absolument qu'on change d'image, il faut absolument qu'il n'y ait absolument jamais cette crainte et ce doute. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, de là où vous parlez, vous êtes présidente du SNEC CFTC, qu'il y a forcément un avant et un après, y compris dans les établissements dans lesquels vous travaillez ?
Ça forcément que oui, il y a un avant et un après quand on entend tout ce qui est toute la parole qui a été libérée, ça c'est certain. Mais je tiens vraiment à redire l'enseignement catholique d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. Et je reviens aussi sur les contrôles, le contrôle à Bétarame. Moi, je pense à tous nos collègues enseignants et salariés qui ont très très mal vécu ce contrôle. Et toute cette médiatisation, ça a été très très compliqué pour eux.
Oui, mais vous voulez dire après, une fois que l'affaire a éclaté
Bien sûr, là, ça a été médiatisé. Enfin, c'est très compliqué à vivre. Et eux n'étaient même pas responsables, dans le sens où certains n'étaient même pas nés et d'autres n'exerçaient pas à l'époque dans l'établissement. Donc,
et en même temps, en même temps, cet établissement n'avait pas été contrôlé depuis très longtemps, comme la plupart, effectivement, des établissements privés. Donc, symboliquement, il fallait peut-être commencer quelque part, Véronique Cotterêle, non?
Oui, non, mais ça, j'entends bien, mais je voulais quand même rappeler que certes, des fois, les contrôles ne sont pas simples à vivre pour nos collègues.
Oui, ouais. Et c'est vrai que des fois, Hélène Le Bignavoyer, il y a des fois où on a l'impression que le serpent se mord un peu la queue, parce que je comprends qu'un contrôle, parfois, on a même un auditeur qui est en train de nous dire, ça donne pas envie d'être enseignant, il y a de la surveillance permanente et du flicage. Oui, il y a ça de ce côté, et puis il y a les enfants aussi de l'autre. On a l'impression qu'on a du mal avec cette équation-là, avec cette quadrature du cercle. Là aussi, il y a des verrous à faire sauter, non?
Oui, mais effectivement, alors je crois qu'aujourd'hui, pour monsieur qui veut être enseignant, je ne suis moi-même pas enseignante, et je pense que Madame Cotterêle répondra mieux que moi, mais je pense que venez dans l'enseignement catholique, devenez enseignant, parce que effectivement, c'est une belle maison. Si les gens sont en confiance, sont formés, je pense que les choses se passeront pour le mieux. Il faut des actions concrètes.
Et y compris pour ceux qui inspectent, Véronique Cotterêle, j'ai quand même voulu lire le message de notre ami Christophe qui dit « Personne ne voudrait devenir enseignant avec des règles de transparence et de surveillance aussi drastiques et intrusives. » Mais pardon, il y a des enfants à l'intérieur de l'établissement, donc vivent les règles de transparence, de surveillance, qu'elles soient drastiques et intrusives, non? Qu'est-ce que vous en dites, Véronique Cotterêle?
Je ne sais pas ce que se veut dire ce monsieur.
Très bien.
J'avoue que là...
Donc vive les règles de transparence et de surveillance. Il nous reste assez peu de temps, mais il nous reste le temps d'écouter Quentin qui nous appelle l'Île-de-France. Est-ce qu'il est là, Quentin? Mais oui, il est absolument là. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir.
On vous écoute, Quentin.
Alors, donc moi, je voulais intervenir. Je voulais juste dire une phrase. Une de vos intervenantes a parlé tout à l'heure, a dit qu'en fait, là où il y avait des enfants, il y avait toujours des prédateurs. Donc, je trouve que c'est un message un peu compliqué à entendre pour des parents. Mais au-delà de ça, je voulais juste revenir sur les circuits de transmission des informations. Il me semble que vous avez oublié un petit maillage, notamment les cellules de recueil des informations préoccupantes, le parquet. En fait, pour revenir sur les instituts privés, moi qui travaille à l'aide sociale à l'enfance, on a énormément mal à rentrer dans les écoles privées, alors sous contrat ou hors contrat, ça c'est encore autre chose, mais il y a vraiment un manque par rapport à ça, à notre niveau en tout cas, c'est très compliqué pour nous.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Quentin. Hélène Le Bignat, il y en a beaucoup des phrases de ce genre-là qui disent il faut un peu forcer la porte, il va falloir ouvrir grand effectivement l'établissement privé pour que ça marche, non?
Oui, il va falloir ouvrir grand, mais je pense que nous sommes déjà très ouverts, donc il faut continuer, il faut avoir cette culture de la vigilance, cette culture de l'écoute, il faut avoir cette culture de la transparence. Nous n'avons rien à cacher et nous sommes justement pour que les parents puissent reprendre confiance, ne perdent pas cette confiance. Il faut continuer à avoir cette transparence et pouvoir être à même de les former, qu'ils puissent écouter nos jeunes et les protéger.
Voilà, que les établissements n'aient rien à cacher et qu'il n'y ait plus d'affaires du même genre. Je vous remercie chaleureusement toutes les deux et Philippe Janvier également. Merci à tous pour vos appels.